Le fait de ne plus chercher à être quelqu'un d'autre, mais de juste vivre, d'être soi, ça me rend puissante. Extrêmement puissante, et ça me donne une énergie à faire déplacer les montagnes.
Salut, c'est Pauline Vrolix. Pour ce quatrième épisode d'Épiderme, je te propose de rencontrer Sylvie. Sylvie a une peau qui parle alors qu'elle se tait. Elle est suissesse, afro-descendante, ses origines sont congolaises. Elle me reçoit dans son salon, un lieu chaleureux et coloré. C'est une femme solaire, à l'intelligence vive et au débit rapide. Aujourd'hui, elle a 40 ans. Elle est maman de deux jeunes garçons qu'elle a eus avec un homme blanc. Ses enfants sont qualifiés de « white passing ». Ce terme, hérité de l'anglais, désigne les personnes qui, tout en étant racisées, sont la plupart du temps perçues comme blanches. J'aimerais savoir comment c'était pour elle de donner naissance à des enfants dont la peau était vraiment beaucoup plus claire que la sienne.
Comment j'ai vécu ça? Alors j'ai vécu ça à différents niveaux. Déjà quand ils étaient tout petits, ils étaient vraiment mes blancs de chez blancs. Mais blanc, blanc, ça veut dire avec les petits tétons rouges, le zizi un peu rose, tout ça. Vraiment blanc, on n'aurait vraiment pas pu dire que leur mère était noire. D'ailleurs, souvent, on m'a pris pour la nounou et ça, c'était très violent. Très, très violent. On m'a souvent pris pour la nounou, on m'a proposé de garder d'autres enfants, vraiment avec ceux-là, etc. Donc, il y avait ça déjà, que c'était compliqué dans l'ouverture des autres de s'imaginer qu'une femme noire puisse avoir des enfants comme ceux que j'avais.
Pour sa part, Sylvie grandit à Lausanne, dans le canton de Vaud. Son enfance, elle la passe dans un quartier populaire. Ses parents travaillent beaucoup, et elle aussi. Désir de réussite. Ça m'intéresse de savoir à quel moment elle prend conscience qu'elle est une femme noire.
Je crois que je l'ai toujours su, mais j'ai essayé très fort de l'oublier.
Ça passait par quoi dans ta vie de tous les jours?
Ça passait par une obsession à vouloir être autre chose que je suis. Ça veut dire, je me suis longtemps défrisé les cheveux, j'ai très longtemps essayé de vraiment de me fondre dans la masse. J'ai beaucoup eu de complexes par rapport à mon corps qui est un peu plus musclé, à mes fesses. Et j'avais envie de d'effacer tout ça, tout ce qui pouvait me renvoyer à ma couleur de peau. Inconsciemment, j'ai voulu me sortir de ma classe sociale, me sortir de ma race à travers aussi la manière dont je parle, la manière dont je bouge. Il y a eu tout ça. On fait comme si la couleur n'existait pas. Et que c'est longtemps comme ça que j'ai vécu. On fait comme si la couleur n'existait pas. Alors que oui, elle existe. Mais ça m'a enfermée en réalité dans un espèce de malaise où j'arrivais pas à définir ce qui n'allait pas. Mais ce qui n'allait pas, c'était le fait qu'on ne reconnaissait pas. Mais j'ai complètement été complice de ça, du fait que j'avais une identité propre et qui était reliée à ma couleur de peau.
Mon identité à moi, c'est celle d'une femme blanche née en Europe. Honnêtement, avant de rencontrer Sylvie, je n'avais jamais pris le temps de réfléchir vraiment profondément à ce que cela représente d'être une humaine blanche. Je n'avais même pas réalisé que parmi mes amis, il n'y avait personne avec la peau noire. Sylvie, c'est la première avec qui je discute vraiment intimement de ce que cela représente d'être noire dans une société de blancs.
Une fois, je me suis fait agresser avec mes enfants par un mec complètement fou. On revenait d'une promenade et il me dit « sale maigresse, rentre chez toi », mais d'une violence incroyable. C'était dur, et ça, c'est du racisme, c'est clair. Et personne viendra te dire que le mec n'était pas raciste, etc. Mais en fait, il y a des expressions du racisme qui sont beaucoup plus subtiles et qu'on ne nomme pas racistes parce qu'elles viennent en plus de personnes « bon sous tout rapport ». Les noirs sont plus corporels, mais moins intellectuels, quoi, toutes ces choses-là. C'est des choses, en fait, qui sont... De la même manière, il faut vraiment comparer le racisme au féminisme, en fait. C'est qu'il y a plein d'attributs qui sont accordés aux femmes.
Émotionnelles, généreuses, sensibles, fragiles, hystériques.
De la même manière, il y a des attributs qui sont accordés aux noirs.
Paresseux, fêtards, peu fiables, corporels, blablabla.
Et puis ces attributs-là, on les porte avec la couleur de notre peau. Malgré nous, c'est comme ça. Les gens, quand ils voient un noir, ils voient toutes ces choses-là. C'est ça que je veux dire, c'est qu'en fait le racisme c'est ça, c'est ce racisme diffus, ce racisme qui ne porte pas le nom, c'est ce racisme même de où les gens pensent te flatter en te disant « qu'est-ce que tu parles bien français pour une noire ? Qu'est-ce que tu es cultivé pour une noire ? Qu'est-ce que tu es professionnel pour une noire ? Ou pour une immigrée ?» C'est ça le racisme subtil et c'est ça le racisme que j'ai vécu sans m'en rendre compte et que maintenant je me rends compte de cette violence dans laquelle j'ai grandi d'être toujours l'autre. En fait, c'est maintenant à 40 ans que je me rends compte que, en fait, c'est dingue que je sois pas devenue folle.
Salut Pauline, c'est Sylvie. Ce que j'avais envie de rajouter suite à nos discussions, c'était en fait que parfois c'est très compliqué d'expliquer aux gens pourquoi, quand tu n'es pas victime de racisme frontal ou de racisme agressif, pourquoi il y a pourtant ce sentiment un peu latent de pas être à sa place ou d'être un peu fatigué du regard des autres. Par exemple, quand on est dans un magasin, c'est pas rare que la personne en fait vienne vers nous pour nous demander où se trouvent les pommes, où se trouvent les poires, ou si on peut renseigner la personne sur un vêtement. Comme quoi, une personne noire qui est dans un magasin, c'est nécessairement une personne qui s'occupe de l'étalage et tout ça. L'autre chose, c'est le regard. Quand on arrive, je sais pas, peut-être dans un restaurant un peu guindé ou même pas dans un espace où il y a essentiellement des personnes blanches, et puis il y a ce regard toujours de surprise qu'une personne noire soit là. Et du coup, en fait, c'est ce sentiment permanent d'être distinguable qui rend la chose lourde. Ce regard racisé, même s'il est, il est bienveillant parfois, mais ce regard qui marque toujours cette différence. En fait, c'est ce qui fait qu'il y a ce sentiment toujours de ne pas être à sa place et d'être victime de racisme. Voilà, j'espère que tu pourras utiliser ça, j'espère que je suis claire, j'espère que je ne suis pas agressive. À bientôt, bon après-midi, ciao.
Entre la fin de ce WhatsApp vocal et la prochaine fois où j'ai vu Sylvie, plusieurs semaines se sont écoulées. Des semaines pendant lesquelles je me suis demandé si la démarche de toucher la peau des autres, comme c'est le cas, comme je le fais dans Épiderme, était vraiment pertinente. Est-ce que c'est pertinent de faire ça?
Alors.
Donc ta peau, à toi.
Peau.
En général, je touche les
Mais
gens.
oui, touche-moi.
Est-ce que
avec
j'ose te
plaisir.
toucher?
Oui.
Ouais. C'est le lieu de ton altérité aussi, là.
Oui, bah bien sûr, mais je veux ma peau, c'est tout, c'est des lieux de mon altérité complètement. Ben, la peau, vu ma couleur de peau, et les cheveux, parce que c'est une texture qui est très spécifique aux femmes
Mais
africaines.
qu'est-ce que ça veut dire si maintenant j'approche ma main de ton
Mais
visage?
vas-y.
Alors, ce que je fais, puis je mets la main, bah, sur tes cheveux qui
Mais
sont
oui.
comme de la mousse dans une forêt, je dirais. De
Voilà.
la mousse? Mais j'ai craqué ou quoi? Je suis tellement mal à l'aise que je sais pas quoi dire.
Et tu peux vraiment plonger tes doigts si ça te fait plaisir. Tu vois, voilà.
C'est super agréable. C'est très bizarre, ça me met très mal à l'aise de le faire aussi.
Ben oui,
Mais
mettre ma main dans ses cheveux,
ce que
c'est
je
un peu
peux
comme
offrir, en
mettre les
fait, moi,
pieds
ce
dans
que
le plat
j'aimerais, c'est
ou
que
mettre le
voir
doigt là où ça fait mal.
comment on peut offrir ça
En fait, je me demande
des choses
si je ne
naturelles,
fais
parce
pas
que c'est
que
des choses
l'astigmatiser
naturelles qui
encore
sont
plus en faisant
faites.
ce geste-là.
Je veux dire, là, maintenant, moi, on a appris à se connaître. Je pense qu'aussi, si j'étais hyper enthousiaste à prendre part à ce projet, c'est parce que je sens l'urgence de la discussion, même si je ne sais pas par quel bout la prendre.
L'espace de la parole médiatique est un lieu à conquérir aussi.
Ouais, oui.
Parce qu'il n'y a pas de discussion comme ça sur...
Non, complètement, mais aujourd'hui, tu m'as donné un cadre où je peux le conquérir. On est parti du principe que le racisme structurel existe et discutons-en. Tu me donnes la voix en partant du principe que ce que je dis est vrai et que je n'ai pas à me justifier là. Et du coup, à partir de là, moi, je suis heureuse d'avoir cette discussion. Et je pense qu'elle est salutaire, elle est nécessaire. Je suis contente de pouvoir exprimer ce que je ressens. Et du coup, de dire aussi la difficulté d'être toujours dans l'altérité, d'être toujours l'autre. Et que dans ce contexte-là, si tu me dis, Sylvie, est-ce que je peux toucher tes cheveux? Pour moi, c'est, est-ce que je peux toucher tes cheveux pour comprendre, pour faire l'expérience? Et dans ce cadre-là, c'est OK pour moi. C'est pour ça que c'est compliqué. Parce que de reconnaître le racisme, de reconnaître le sexisme et de vouloir rééquilibrer les choses, ça veut dire renoncer à certains de ses privilèges. Ça veut dire intégrer dans les discussions l'altérité. Et d'intégrer l'altérité, d'intégrer l'autre, ça veut dire remettre en question son soi, réfléchir à soi et réfléchir à son identité de blanc, d'homme blanc, de femme blanche. C'est toujours compliqué de devoir se séparer d'un privilège, de devoir renoncer. Et donc c'est pour ça que la discussion, elle est sensible.
Mais de quel privilège parle Sylvie? Je crois que c'est celui de l'innocence. De l'innocence de croire que l'on vit dans un monde où nous avons tous les mêmes droits et les mêmes opportunités. Au même titre que beaucoup d'hommes se questionnent sur leur potentiel sexisme aujourd'hui, je me questionne sur mon potentiel racisme. Un racisme involontaire, inconscient,
qui perpétuent malgré moi le statu quo. Et je pense à deux hashtags aussi qui ont marqué l'actualité ces dernières années. Le hashtag MeToo et le hashtag Black Lives Matter. Être profondément féministe, c'est être profondément antiraciste et inversement. Ben oui, je crois que c'est ça. Tu t'aimes dans ta peau?
Ben, maintenant, je m'adore dans ma peau. J'en voudrais pas une autre. Mais ça n'a pas été tout le temps comme ça. Mais maintenant, je suis complètement ancrée, quoi. Tout est aligné. Et j'aime ma peau. J'aime sa couleur. J'aime mon corps comme il est, quoi. J'ai toujours mes moments de doute, mais c'est pas par rapport à... Tiens, je voudrais être blanche. Pendant longtemps, j'ai tellement voulu être blanche, aux cheveux lisses, blondes. Et je crois qu'en fait, c'est pour ça que je suis belle aujourd'hui, peut-être. Parce que je suis alignée. Je corresponds à qui je suis. Quoi, je crois qu'aujourd'hui, je suis consciente du fait que je suis une femme puissante. Le fait de ne plus chercher à être quelqu'un d'autre, mais de juste vivre, d'être soi, ça me rend puissante. Extrêmement puissante et ça me donne une énergie à faire déplacer les montagnes. Ma peau, c'est toute une histoire souvent très douloureuse parce qu'elle renvoie à l'esclavage, à la colonisation, elle renvoie à la migration plus récemment, mais j'en suis extrêmement fière. Donc je la porte avec fierté, je m'en excuse plus, je milite même pour qu'elle soit intégrée dans le paysage à la hauteur de sa valeur.
C'est ici que se referme ce quatrième épisode d'Épiderme. Épiderme, dont les trois mots-clés sont liberté, égalité, sororité. Et désormais, je remplace égalité par altérité. Si ça t'intéresse de retrouver Sylvie, elle a créé avec une amie un salon de coiffure pour les cheveux bouclés, frisés, crépus et afro. Ça s'appelle Tribu Urbaine, au pluriel, c'est au centre-ville de Lausanne. Le site internet, c'est tout simplement tribuurbaine.com. Ah, j'aimerais encore te recommander un livre paru en 2018 aux éditions Autrement, qui m'a permis de me rendre compte de ce qu'était le privilège blanc. Ça s'appelle « Le racisme est un problème de blanc » de Rémi Edolodge. C'est une journaliste britannique qui collabore régulièrement avec le Guardian et le New York Times. C'est Sylvie qui m'a demandé de lire ce livre avant que je la rencontre. Et franchement, je crois que j'ai bien fait. J'espère que vous en ferez autant. Pour le prochain épisode d'Épiderme, dont je ne sais pas quand il arrivera, mais je vous tiendrai au courant, c'est une peau cachée que je vais approcher. Et je vous promets, c'est une sacrée épopée que de toucher à son intimité. Si d'ici là, tu aimerais rentrer en contact avec moi, tu veux me faire part de tes ressentis ou de ton avis, tu peux m'interpeller sur Instagram, @powwo, ou sur Twitter. Épiderme, un podcast RTS proposé par Pauline Vrolix avec
Marc Frochot pour la réalisation et la musique,
Laurent Vrolix pour la percussion sur le hang,
Katharina Hogstedt pour la scénarisation des épisodes.
Tu veux découvrir un autre podcast de la RTS?
Écoute La fille de ta mère. C'est un podcast où la parole est libre. Une fille et sa mère se disent tout, sans tabou, pour la première fois. Allez, viens.
Merci Lynn. Tu peux retrouver tous les podcasts de la RTS sur Play RTS, Apple Podcasts, Google Podcasts et Spotify.